Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà maintenant sur Radio Girafe. Je suis Raphaël, le R de Girafe. Je reçois aujourd'hui Fabrice Tour. Salut Fabrice.
Salut Raphaël.
Alors on a une émission un peu particulière, ça va être la première, on l'espère, de nombreux épisodes qui vont raconter un peu la vie des entrepreneurs. Alors Fabrice, tu vas avoir deux casquettes dans cette première interview. Tu vas lancer notre rubrique Les paroles d'entrepreneurs au MEDEF. Alors, comme tu le sais, Radio Girafe, ça n'est ni religieux ni politique. Là, on aborde ça sous le biais, effectivement, de l'entreprise et de l'entrepreneur. Donc avant de commencer ton parcours à toi, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous présentes un peu cet engagement, justement, l'engagement que tu as eu au MEDEF en tant qu'entrepreneur. Et puis après, on basculera dans une deuxième partie d'émission sur ton parcours d'entrepreneur à part entière, c'est-à-dire univers et comment aujourd'hui ton entreprise fonctionne, qui tu es, comment tu en es arrivé à piloter cette entreprise.
Parfait.
Donc alors Fabrice, est-ce que tu peux nous parler du Fabrice Tour, président du MEDEF déjà pour commencer ?
Bonjour à tous, merci d'abord de m'accueillir sur Radio Girafe. Et merci aux millions d'auditeurs de nous écouter.
Pas encore, mais ça va venir.
Je suis Fabrice Tour, président du MEDEF Seine-Estuaire depuis maintenant 2 ans et demi. C'est un mandat électif, donc j'ai eu la chance d'être élu par le conseil d'administration il y a maintenant 2 ans et demi. Et si je me suis engagé au MEDEF, c'est que c'est un beau mouvement pour aider, soutenir les entreprises et c'est surtout un MEDEF territorial. Donc c'est un mouvement qui permet d'être en contact avec des entreprises locales et de découvrir et d'être en contact avec toutes les pépites du territoire.
Et quand tu dis que c'est un mouvement, c'est territorial, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le MEDEF national et donc chaque MEDEF par territoire élit donc un président et puis ça constitue le... Je ne sais pas si on peut parler de confédération du MEDEF ou d'association nationale du MEDEF.
Oui, il y a un MEDEF national qui, lui, va agir au niveau législatif, qui va travailler sur les projets de loi, qui va donc c'est une vraie structure là, plus politique, et des MEDEF territoriaux. Donc il y a 112 MEDEF territoriaux. Il y en a normalement à peu près un par département. En Seine-Maritime, il y en a 2. Mais donc au total, en Seine-Maritime, il y a 6 MEDEF, un MEDEF normand. Pas qui chapeaute, mais qui coordonne l'ensemble des MEDEF et qui fait des actions plutôt régionales. Et sur chaque territoire, des MEDEF qui, eux, vont défendre les entreprises du territoire, vont créer des liens, vont être en liaison avec les politiques et vont nommer aussi, ce qui est important au MEDEF, des mandataires pour détenir des mandats. Dans le cadre du paritarisme, on pense notamment tribunaux de commerce, chambres de commerce, URSSAF, CURSAT, etc. Donc là, on a dans nos adhérents beaucoup d'adhérents qui tiennent des mandats dans ces structures.
Donc des mandats du côté
patronal.
Oui. D'accord. Donc c'est l'équipe des forces. C'est-à-dire, ce qui fait un peu défaut d'ailleurs, c'est peut-être parfois ce manque de syndicalisme positif en France. Enfin, donc vous faites partie de cet écosystème.
Oui, on fait partie de cet écosystème. On a plus de 100 mandats rien que sur notre territoire. Et puis en France, on en a des milliers qui sont tenus par l'ensemble des représentants patronaux au sein des MEDEF ou d'autres organisations patronales, parce qu'on n'est pas les seuls, même si on est l'organisation la plus importante. Il y a également la CPME, l'UDP, qui sont également des fédérations, des unions patronales.
Bon, alors ça c'est pour planter le cadre. Alors, il y a eu effectivement une discussion qu'on a eue avec notre petite radio qui émerge. C'était aussi, et c'est plus dans notre ADN à nous, de donner la parole aux entrepreneurs. Et tu as eu la gentillesse de nous accueillir et de nous dire, tiens, ce serait peut-être intéressant qu'on monte un partenariat ensemble, puisque nous, on a vocation à donner la parole vraiment à différents types d'acteurs sur le territoire. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas monter cette émission. Donc, ce que je voulais aussi avoir dans notre échange, c'était de savoir comment est-ce que on recrutait un membre du MEDEF, par exemple, parce que souvent on se dit tiens, c'est pas pour moi. C'est peut-être intéressant aussi d'expliquer qu'on et ce sera l'objet d'ailleurs des épisodes que nous aurons à développer. C'est le profil. C'est quoi le profil d'un adhérent du MEDEF ?
Alors, à tort, effectivement, l'image en France, c'est que le MEDEF, c'est le grand patronat, c'est les entreprises du CAC 40. Or, on le voit, et notamment sur les territoires, c'est souvent des entreprises de proximité. La taille moyenne des entreprises de nos adhérents, c'est 50 adhérents. Et on a au sein de notre MEDEF des entreprises unipersonnelles et des grands groupes qui se côtoient. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est de mélanger des écosystèmes très différents. Et le recrutement, il se fait de deux manières. On a au sein de notre MEDEF des fédérations, l'Union maritime et portuaire, les industries de la chimie, l'UIMM, donc les industries de la métallurgie, les hôteliers, les stockistes, la Fédération française du bâtiment, qui, elles, adhèrent à notre MEDEF, et donc qui viennent avec leurs adhérents. Les adhérents de ces fédérations sont automatiquement adhérents du MEDEF. Et en plus, on a des adhérents directs, donc des entreprises qui décident non seulement d'adhérer à des fédérations ou pas, mais qui en plus souhaitent adhérer au MEDEF, qui apporte autre chose. Les fédérations souvent défendent un métier. Nous, on est transpartisans, on va dire, mais on est tout métier. Et donc certains préfèrent adhérer en direct à un MEDEF qui va leur donner une ouverture non seulement sur leur métier, mais sur d'autres entreprises du territoire. Donc ces entreprises, c'est simplement, elles viennent nous voir, soit parce qu'elles veulent créer du réseau, soit parce qu'elles veulent prendre un mandat, soit simplement parce qu'elles veulent de l'information, rencontrer du monde, ou simplement quelquefois avec un but commercial, mais ce n'est pas tellement l'objectif du MEDEF. On n'adhère pas au MEDEF pour faire du business, même si ça arrive qu'on en fasse.
C'est un réseau.
Voilà, donc tout ça, c'est les raisons qui poussent des entreprises à venir nous rejoindre. Et il suffit simplement de faire la demande et d'être validé, mais je n'ai pas connu de refus d'adhésion au MEDEF. Voilà.
Oui, l'idée, c'est justement de faire grandir et de pouvoir créer des acteurs qui puissent échanger sur le territoire. Donc, on est on est complètement dans le lien, en tout cas le lien avec notre radio, c'est l'échange et le partage. Donc ça sur cette première partie, on a donc décidé de donner cette parole aux entrepreneurs, et c'est ce qu'on va aborder maintenant, parce que tu es président du MEDEF, mais tu es par ailleurs un entrepreneur, en tout cas tu diriges une société. Ce que je trouve aussi intéressant, et tu le disais, et ce sera aussi dans l'ADN de ce qu'on veut développer, c'est qu'on peut être entrepreneur, on peut être dirigeant salarié. C'est véritablement cet état d'esprit de mettre l'entreprise au cœur de l'écosystème, et on voit bien que c'est important aujourd'hui, et on veut arriver, nous, à donner cette visibilité à chacun des adhérents. Donc là, on va partir sur une deuxième partie d'émission, qui est le Fabrice Tour entrepreneur. Donc, est-ce que tu vas pouvoir nous parler un petit peu alors de ton parcours à toi, parce que c'est intéressant, et c'est un peu sur le format qui va piloter l'ensemble des interviews qu'on mènera auprès des adhérents du MEDEF. Donc, ton parcours, ton entreprise, et puis derrière, si tu as un message particulier à nous faire passer sur l'entreprise, ou en tout cas un point de vue que tu pourrais avoir, alors ça peut être dans ton secteur d'activité, mais ça peut être aussi d'un point de vue un peu plus large. Alors, qui est Fabrice Tour en tant qu'entrepreneur ?
Alors, Fabrice Tour est un Havrais, issu d'une famille qui est installée au Havre depuis 1800, et d'une famille d'industriels, puisque certains d'entre vous connaîtront peut-être la société Tour & Compagnie, plus connue au Havre sous le nom de Verrit Graville, qui est une société qui a été créée il y a maintenant 5 générations par qui est à l'entrée du Havre, qui est la plus vieille industrie du Havre, puisqu'elle a été créée en 1840. Donc ça, c'est une entreprise qui est restée dans la famille jusqu'en 2000, qu'on a cédé en 2000, et j'y travaillais, mon père en était le président, et puis quand on a cédé l'entreprise, j'ai décidé de rester dans ce métier du verre que je connaissais bien, et qui est, comme je dis souvent, le verre coule dans mes veines. Et donc j'ai créé une petite structure, au départ tout seul, uniquement de négoce, donc en représentant des entreprises verrières françaises et internationales à l'exportation, avec une spécialité qui était plutôt les marchés du rhum. Donc on est très présent à l'export sur les Antilles, l'océan Indien, l'Afrique, et puis sur d'autres produits que le rhum également, sur l'Asie, où on fait un peu de vin, un peu de jus, etc.
Donc mais là, tu es dans le flaconnage. Dans les pieds du verre, les verres Tour faisaient que du flaconnage.
Oui, c'est ce qu'on appelle du verre creux, plutôt même de la bouteillerie, puisque même dans le verre creux, il y a aussi flaconnage peau, il y a le flaconnage parfumerie, et la bouteillerie. Alors, quelquefois, quelques usines font un peu des deux, voire les trois, mais en général, elles sont spécialisées. Nous, on était spécialisés dans le marché du verre creux, marché local, et puis étant implanté sur un port, on était traditionnellement très tourné sur l'export. Et donc ça, j'ai gardé cette spécialité avec des très bons clients et des vieux clients, notamment dans le rhum.
Donc les verres Tour, l'usine que beaucoup de Havrais connaissent à l'entrée de ville, aujourd'hui, elle a été reprise... conserve le nom de Verrit Tour, ou ça a été racheté par un groupe ?
Alors, ça a été racheté par le groupe Saverglass. L'unité du Havre s'appelle encore Tour & Compagnie, groupe Saverglass. Et elle a été rachetée d'abord par un groupe privé. Et il y a quelques années, elle a été rachetée par des fonds de pension. Et là, plus récemment, elle vient d'être rachetée par un groupe, je crois, australien, d'emballage plus généraliste, qui fait également du métal et d'autres produits. Mais ça reste le deuxième... On reste intégré dans le deuxième plus gros groupe verrier français.
D'accord. Donc dans ton parcours, une entreprise familiale qui est donc quasiment bicentenaire. Oui. Tu décides de quitter, tu montes ton entreprise et aujourd'hui, c'est un fournisseur pour toi dans ton métier à proprement parler.
Non, on a d'autres partenaires. Alors ça nous arrive de travailler très ponctuellement avec eux, mais c'est vraiment epsilonesque, on va dire. Notre partenaire principal, c'était le groupe Saint-Gobain, qui maintenant s'appelle Verallia. Et puis, on a d'autres partenaires un peu partout en Europe sur du flaconnage plutôt de luxe, puisque Verallia est un verrier plutôt généraliste. Donc, il va faire toutes les bouteilles de rhum standard, des bouteilles de cidre ou de jus. Mais par contre, dès qu'on est un peu plus dans le petite série dans le haut de gamme, il faut s'appuyer sur d'autres partenaires. Et c'est un peu notre spécialité. On s'est orienté au fur et à mesure des années vers le flaconnage haut de gamme, la carafe, voire même le cristal, puisqu'on a racheté il y a 2 ans une petite société de carafe cristal en distribution.
Donc, qu'on comprenne bien, tu n'es pas que dans le courtage, c'est-à-dire que tu, pour le compte de tes clients, tu vas façonner à demande du flaconnage, et ensuite tu vas les faire dans des usines. Tu n'as pas d'unité de production à proprement parler.
On a trois manières de procéder. Soit on distribue la gamme des verriers que l'on représente, donc là ils ont des gammes de standards ou de produits spécifiques qui leur appartiennent. Soit c'est le client qui arrive avec sa bouteille, une forme spécifique. Alors, ce n'est pas le cas pour nous, mais on peut penser à Orangina ou Coca ou des grandes marques de rhum qui ont développé leur forme. Et là, qui viennent nous voir en disant, chez qui on pourrait faire produire ? Trouvez-nous le meilleur verrier en fonction de la qualité, des quantités, etc.
Donc là, c'est du courtage.
Ou également, on a un bureau d'études qui est capable d'accompagner le client dans le développement de ses modèles, donc de dessiner des formes. Et là, pareil, en fonction de la qualité de verre, des quantités, de ses contraintes, on lui sélectionne le meilleur partenaire verrier pour fabriquer ses modèles.
D'accord. Et aujourd'hui, Univer, vous êtes combien ? Combien vous êtes salariés ?
Alors aujourd'hui, on est 14. Ouais. Voilà. On est une équipe de 3 commerciaux et 3 assistants ou assistantes commerciales qui vont, elles, gérer tout l'aspect business, c'est-à-dire démarcher les clients, faire des offres, gérer les offres. On a une équipe marketing-développement qui, elle, va gérer toute la communication de l'entreprise, la préparation des salons, les plaquettes, etc. On a une responsable administrative et on a 2 personnes au bureau d'études qui vont travailler sur le développement de projets.
Et ça partout dans le monde, parce que vous voyagez beaucoup, vous allez chercher les marchés là où ils se trouvent.
Oui, alors on est à 90% à l'export, essentiellement, comme je disais, sur les marchés du rhum, et concentré beaucoup donc, sur les Caraïbes, donc bien sûr les dom-toms, Martinique, Guadeloupe, Réunion, mais également les autres îles comme la Jamaïque ou Cuba ou la Barbade. Beaucoup sur l'océan Indien, qui est un marché historique pour nous, donc Réunion, Maurice, Madagascar. Beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest, parce que traditionnellement, le côté Afrique francophone rend le business plus facile. Et puis, on a toujours eu beaucoup de contacts avec l'Afrique de l'Ouest. Et plus récemment, on s'est développé en Asie. Donc, on travaille un petit peu sur la Thaïlande, le Japon, les Philippines, le Vietnam. Et un peu également le Pacifique, Tahiti. Voilà. Donc, des belles destinations. On a choisi plutôt d'aller au soleil.
Je vois ça. Je vois comment tu joues l'utile et l'agréable. Ça, c'est une bonne chose. Alors, pour là, on a donc compris ton univers. Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler recrutement, est-ce que c'est difficile de recruter ? Est-ce que toi, tu as des besoins de recrutement particuliers ou...
Non, je dirais...
Alors, en termes de collaborateurs ou même de clients, est-ce que...
Alors, des clients, on en recherche toujours, bien sûr. Bien sûr. En termes de recrutement, on a fait le plein, alors soit en personnel permanent, soit en apprentissage. On a pris 4 apprentis cette année. Hein, donc, dans les 14 personnes, je compte bien entendu les 4 apprentis. Voilà. Mais aujourd'hui, on est bien dimensionné pour répondre aux demandes et assurer notre développement.
Bon, alors là, donc tu travailles à l'international. Est-ce que localement, toi, tu penses que le marché national pourrait... Il y a des choses à faire sur le marché national ou tu es vraiment orienté à 90% à l'export et... Il n'y a pas d'autre voie que celle-là en termes de développement.
Alors, c'est une bonne question qui pourtant n'était pas préparée, mais justement, on est en train de développer un entrepôt, quelque chose qu'on n'avait pas. On était uniquement l'intermédiaire, donc on achetait, on vendait, mais on ne voyait pas la marchandise. Et on est en train de développer un entrepôt sur les hauteurs du Havre, à côté du stade Youri et Gagarine, sur une nouvelle zone qui s'appelle les entrepreneurs. Et là, on va y déménager nos bureaux et avoir 800 mètres carrés de stockage qui vont nous permettre, ces capacités de stockage, de répondre à une demande plus locale. On veut notamment reconquérir un marché sur lequel on était très présent dans le passé, quand j'étais chez Tour et Compagnie, qui est le marché du cidre, du Calvados. Et là, c'est nécessaire d'avoir un stock de proximité pour pouvoir livrer à la palette quand c'est nécessaire. Donc voilà, on a cette volonté de reconquérir un marché local, ça c'est une première chose qui va nécessiter d'avoir un peu de stock. Et la deuxième chose, c'est également de pousser, développer une marque de produits retournables, recyclables.
Ah oui, c'est voilà. dans le circuit, l'économie circulaire.
Oui, il faut savoir que le verre aujourd'hui est essentiellement collecté dans les conteneurs, récupéré dans les usines et réutilisé en matière première. Mais il y a une volonté, une nouvelle loi qui est passée pour contraindre la grande distribution à remettre en place des circuits de consigne. Et pendant des années, les verriers ont tous allégé leurs bouteilles. Et là, on nous redemande de ressortir de gammes de bouteilles un peu plus lourdes, avec des formes assez simples, pour pouvoir être réutilisées à l'infini. Donc ça, on est en train de développer. On a développé deux gammes, une gamme de bouteilles de jus, des bouteilles qui vont pouvoir être utilisées pour les jus, mais également pour les soupes ou pour le lait, et une gamme de bouteilles plutôt typée eau, mais également qui pourra servir pour les limonades ou les jus de fruits en général. Voilà. Donc ça, c'est deux produits qui sont nos propres bouteilles, qui ont été déposées, qui sont nos propres développements. Et on a fait ça parce qu'on s'est aperçu que chez les grands verriers, il n'y avait plus ces gammes de produits retournables. Et donc, on estime qu'il va y avoir un besoin dans les années futures et on veut avoir ces produits en stock.
Oui, puis ça va un peu dans cette ambiance actuelle de la réindustrialisation et de recréer des circuits courts. Quand on disait du local, effectivement, bien évidemment, je pense qu'on parle de la France, c'est-à-dire que ça ne va pas concerner que la Normandie. Mais ça veut dire que vous avez aussi toute une démarche d'innovation. C'est-à-dire que vous êtes obligé aussi de réinnover au sein de vos activités. Parce que là, quand tu parlais de bouteilles un peu plus légères, enfin, sans rentrer dans les détails techniques, mais ça veut dire que vous avez imaginé finalement un nouveau modèle économique qui va derrière ?
Oui, alors on a ce modèle économique. Donc effectivement, il faut réinventer ce circuit de la collecte avec une rentabilité à tous les niveaux parce qu'il faut savoir à combien on reprend, qu'est-ce qui va inciter les clients à ramener leurs bouteilles, comment on va rémunérer le circuit du lavage, de la collecte, du reconditionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont prêts à prendre des bouteilles, non plus neuves, mais d'occasion, avec toutes les contraintes sécuritaires, alimentaires qui peuvent en découler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en cours de réétude, et on est en train de réinventer ce marché qui existait il y a 50 ans, mais dont on a perdu tout le fonctionnement, tout le savoir-faire. Ensuite, on innove également, bien sûr, toujours sur des formes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on innove aussi sur le très haut de gamme. Par exemple, on a racheté une marque de carafe cristal, très haut de gamme, pour répondre à un marché de niche, mais très valorisé, de toute petite série de produits valorisés.
Là, c'est le luxe,
marché de luxe. Et ces carafes cristal sont soumises à de nouvelles contraintes aussi qui sont que le cristal contenait du plomb. Et là, il y a aussi une nouvelle obligation légale qui fait qu'on ne peut plus utiliser de plomb dans les carafes. Donc on a retravaillé avec notre fournisseur sur des compositions verrières qui permettent d'éliminer le plomb de ces carafes cristal tout en couvrant l'appellation cristal qui répond à des critères de solidité, de brillance et de contraintes techniques. Voilà, donc on travaille sur le cristal sans plomb aujourd'hui.
Là,
c'est de la vraie R&D. Voilà, donc on est les premiers à avoir sorti une petite gamme de carafes cristal, mais sans plomb, qui, elles, vont pouvoir répondre aux utilisations très spécifiques du haut de gamme.
Bon, mais en tout cas, c'est passionnant sur le métier. Là, je pense qu'on a fait. Et le but, si jamais les gens sont intéressés, c'est de ne pas hésiter à te contacter. Voilà, ouais. Alors, on a vu le marché international et le marché local, donc il y a forcément quelque chose. Pour terminer cette conversation, on a toujours pour habitude, on est une radio locale, de parler du Havre. Ouais. Et j'aimerais bien simplement qu'on termine sur toi, tu es havrais. Comment tu perçois le Havre? Quelles sont effectivement les différentes, peut-être d'un point de vue architectural ou peut-être en termes de sentiments sur l'évolution de cette ville? Donc j'aimerais bien avoir ton avis sur le Havre, parce que on est partie prenante quand même de tout ça. On est des acteurs économiques, mais aussi.
Ouais. Alors tu le sais bien, puisqu'on est de la même génération, on s'est connus dans nos soirées.
ça revient souvent.
En régate ou ailleurs. Et tu sais bien que quand on a fini nos écoles dans les années 80 ou 90, on partait du Havre avec plaisir et on allait faire nos études à l'extérieur. Parce que d'abord, il y avait peu d'écoles. Et ensuite, ce n'était pas une ville dont on avait une très bonne image. Et depuis, je trouve que l'image du Havre a fortement changé. Les Havrais se sont réappropriés et ont appris à nouveau à aimer leur ville. Ça a été notamment aidé par le classement de l'UNESCO qui avait été initié par Antoine Ruffnac. Et je trouve que D'abord, on a su faire venir beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles.
De plus en plus. Ouais.
On passe à Sciences Po, on est en train de parler d'arts et métiers. On voit l'ISEL, on voit l'école, bien sûr, la marine marchande qui existait, mais qui s'est modernisée. Enfin, tout ça, on voit qu'il y a une vie étudiante qu'on n'avait pas à notre époque. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est une ville qui devient plus jeune et plus dynamique.
Plus attractive. Hein.
Plus attractive. C'est une ville qui s'est fortement embellie. Je pense que les travaux du tramway, ils sont pour quelque chose. On en a profité pour redonner un petit coup de jeune à certaines rues. C'est une ville qui, de nouveau, attire les touristes, soit par son classement UNESCO, soit par le nombre de croisières qu'on peut accueillir. Et puis, on le voit d'un point de vue économique, c'est une ville qui, de nouveau, attire. Je pense que dans un marasme que l'on voit un peu partout en France, Le Havre est une des seules villes avec des gros projets industriels et donc qui retrouve une attractivité importante.
Non, c'est vrai qu'on le retrouve au fil des interviews qu'on a pu mener. On voit une vraie réappropriation de cette ville. Et à juste titre, hein, parce qu'on voit aussi la génération de nos enfants qui, eux, sont heureux d'y vivre. Ouais. Il y a une vraie qualité de vie qui s'est installée ici. Alors, bon, écoute, on va conclure notre conversation. Déjà, un grand merci pour cet échange.
Merci à toi.
Tu vas donc initier le début de quelques conversations qu'on espère nombreuses auprès des adhérents du MEDEF. J'ai pour habitude de poser la question qui est de savoir quel genre de girafe tu es. Parce que finalement, on a tous un portrait chinois à donner. Donc, on grossit la communauté de la girafe. Donc, je voudrais savoir quelle est la girafe qui correspond le plus à Fabrice Tour.
Qu'est-ce que tu appelles la girafe ?
Est-ce que tu es... Alors, on a toi, je vais te dire, dans notre communauté, on a des girafes festives, on a des girafes industrielles, on a des girafes sportives. Toi, tu te qualifierais comment ?
Alors, j'ai une ancienne girafe sportive. J'ai été très sportif. J'ai beaucoup écumé les plages du Havre en planche à voile entre ma sixième et ma terminale. Après, ça s'est un peu calmé. Je me qualifierais plutôt de bon vivant aujourd'hui que de sportif.
Mais il faut des girafes bon vivant dans notre communauté. C'est ce qui fait aussi que la communauté est diverse.
Donc, j'aime bien faire la fête avec les copains. J'aime bien le bon vin. J'aime bien les bonnes bouffes. J'aime bien les voyages. Voilà.
Donc, tu vas être notre girafe épicurienne.
Eh bien, avec grand plaisir, oui.
Voilà, on ne l'avait pas. Tu seras donc notre girafe épicurienne. Donc, écoute, Fabrice, un grand merci. On espère, et on va développer ces épisodes, donc que les adhérents du MEDEF qui font partie de notre communauté, parce que je fais aussi partie du MEDEF, n'hésitent pas à nous rejoindre, qu'on puisse échanger, qu'on puisse mener ce genre de conversation pour vous faire connaître. Et puis, venez faire grandir la grande communauté des entrepreneurs et des girafes.
Et tu vas voir si certains de nos adhérents sont interviewés, qu'il y a des pépites sur le territoire du Havre méconnues. Voilà.
J'en suis intimement persuadé. En tout cas, un grand merci. Merci Fabrice.
Merci encore Raphaël.
À bientôt. Au revoir.